3, 2, 1. Impact. Une émission proposée par l'association Limousin Écologie.
Bonjour et bienvenue dans Impact. Cette fois-ci, je vais commencer par vous raconter, non pas ma vie, rassurez-vous, mais un épisode qui s'est déroulé il y a quelques années. J'avais décidé, après avoir terminé ma vie professionnelle, d'aller suivre des cours à la fac de droit de Limoges, et me voici en première année de droit, au milieu de 300 jeunes étudiants, arrivant au premier cours de relations internationales. Le professeur est déjà là, qui nous regarde arriver, c'est un monsieur, la soixantaine, les lunettes, le cartable posé sur le bureau, bref, le professeur d'université tel qu'on peut s'imaginer. Le cours commence, il se présente, Jean-Marc Lavieille, il présente brièvement son cours, et tout à coup, le voilà qui monte debout sur son bureau et fait répéter à l'amphi tout entier « La compétition, non, 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 la solidarité, oui, oui, oui !» Stupéfaction générale. Et là, l'amphi se sépare en deux clans. Certains, assez peu nombreux, et qu'on ne reverra guère plus par la suite, se disant mais qui c'est ce clown ?» Et les autres, pour la plupart béats d'admiration, se disant « Trop fort, il est génial ce prof !» Ce fut ma première rencontre avec Jean-Marc Lavieille et le début d'une amitié dont je ne suis pas peu fier, il faut bien le dire. Je vous emmène donc aujourd'hui à la rencontre non seulement d'un spécialiste du droit international de l'environnement, mais aussi et surtout d'un philosophe humaniste hors du commun. Mais tout d'abord, voici la chronique de Pierre. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que je vis là ? Bonjour Jean-Marc Lavieille.
Bonjour.
Alors Jean-Marc, avant de dire un mot de l'enseignant, du chercheur, du militant et du retraité actif, quand je suis arrivé, tu m'as invité à aller à l'essentiel. Alors qu'est-ce que c'est pour toi l'essentiel ?
C'est d'abord de te remercier, de vous dire que je suis très heureux de partager ce moment avec vous et puis tous mes voeux pour la suite de ce que vous faites à Limousin Écologie. Alors je commence par une petite histoire symbolique sur l'essentiel, c'est celle du bol et des cailloux. Il y a un sage qui fait venir devant lui quelques personnes et qui leur dit voilà. Et il sort un bol et il le remplit de cailloux. Est-ce que je peux y ajouter quelque chose ? Non, 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 disait. Il ajoute de petits cailloux. Est-ce que je peux y ajouter encore quelque chose ? Non, 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 c'est bien plein. Et il ajoute du sable. Et il dit, quelle est la philosophie de l'histoire ? Alors, il y a des personnes qui disent, il faut remplir chaque petit moment de sa vie jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui disent, il faut profiter de chaque petit moment, de chaque moment de sa vie. Le sage ajoute, d'accord, d'accord, mais n'oublions pas, dans nos vies, si on le peut, si on le veut, de mettre d'abord les gros cailloux, d'abord l'essentiel, puis ensuite l'important, puis le secondaire et le détail. Voilà ce petit compte. Alors, je reprends ta question. Et il y a la recherche de l'essentiel en général, puis celle de l'essentiel dans ma vie. Alors, en général, l'essentiel, c'est ce qui passe et devrait passer avant tout le reste, c'est-à-dire l'important, le secondaire, le détail. Chaque personne, chaque collectivité peut déterminer dans sa vie l'essentiel. Et ça peut, qui peut rester le même, qui peut évoluer, changer, on peut cheminer avec lui en réalisant un peu beaucoup que c'est lui, ou pas du tout. On peut ne pas penser à le découvrir ou le découvrir peu à peu ou d'un coup, ou ne pas arriver à le trouver. On peut avoir quelquefois aussi le sentiment qu'il est perdu. On chemine avec l'essentiel puis on l'a perdu. Donc il y a de multiples situations. Alors l'essentiel dans ma vie, c'est assez simple à décrire. Il me semble que ou bien il m'accompagnait ou bien il n'était pas loin. Et souvent, en termes non pas de culpabilité mais de responsabilité, j'ai essayé de le chercher, mais pas assez souvent. Il était là, à la fois comme quelque chose de donné, comme quelque chose aussi à construire. Et en 72, à la fin de mes études universitaires à Toulouse, ça fait déjà plus de 40 ans, j'ai découvert quelque chose qui a été confirmé par la suite, je le vois mieux maintenant avec le recul. J'avais senti, pensé, souhaité très fortement que les éléments secondaires ou dérisoires dans ma vie, au soir de ma vie, soient noyés, soient disparaissent, s'évaporent. Il me resterait, il devait me rester l'essentiel. Et l'essentiel m'est apparu un peu comme le dieu Janus à deux faces, avec deux figures, avec deux éléments qui se complètent, s'appuient l'un sur l'autre, s'interpellent, finalement s'inclinent l'un vers l'autre. Ça, ce que je dis là, ce sont des expressions que j'emploie souvent pour deux éléments, par exemple, deux personnes, deux valeurs, deux droits, deux civilisations, etc. Je dis s'appuyer, se compléter, s'interpeller, s'incliner l'un vers l'autre. Et alors, les deux éléments, c'est une certaine qualité de relation humaine, et puis penser et mettre en œuvre des luttes contre l'inacceptable.
Et quand tu parles de qualité de relations humaines, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là ?
Je crois que profondément que c'est ce qui peut briser des solitudes, ce qui peut contribuer à changer des destins, ce qui peut qualifier une grande partie de la vie. Et quand je revois ma vie, je vais avoir bientôt 70 ans dans quelques jours, je réalise jusqu'ici les chances, c'est un mot que j'emploie souvent, chance et malchance, les chances des rencontres et les quatre séries de vécu qui ont été essentielles. D'abord, les chances des rencontres d'une vie. La chance, on n'y pense pas toujours. Je l'ai réalisé assez vite, vers 15 ans. La chance d'abord d'être né en dehors de quoi ? En dehors de la guerre, de la faim, de la soif, d'une catastrophe écologique, d'un régime autoritaire, en dehors de plusieurs de ces situations dramatiques. On ne le réalise pas toujours, mais il s'agit de drames dans lesquels on ne se trouve pas plongé au début de sa vie, ou même une partie de sa vie, ou même toute sa vie. Il y a des personnes de 30 ans, 35 ans, qui n'ont connu que la guerre. Que la guerre. On se doit d'autant plus de vouloir que les êtres humains les plus nombreux possibles aient cette chance d'échapper à l'inhumain. On en est très très loin sur Terre aujourd'hui. La chance ensuite de rencontrer des êtres merveilleux. Je suis né en 1946 et je me rappelle un peu mes grands-pères. Mes grands-mères n'étaient plus là. J'ai eu la grande chance d'avoir une enfance vécue comme heureuse. Mes parents nous élevaient avec amour, mes sœurs et mon frère et moi. J'étais le petit dernier, très coucouné par les trois autres. Et à 12 ans, j'ai pu, grand moment de ma vie, grâce à la chirurgie d'un poumon, continuer à respirer. Et donc, j'ai pu continuer à vivre. Et à partir de cette opération, en mai 58, 1958, j'ai pris deux décisions. D'abord, remercier souvent la vie. Et ensuite, alors j'insiste sur ce point, parce que dans la vie quotidienne, il peut être très important, voir les autres, proches et lointains, avec leur beau et bon côté. Avec leur beau et bon côté. Pas naïvement, hein. C'est quelque chose qui peut être pensé. C'est-à-dire que je crois qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à critiquer les autres, à nous plaindre de leurs défauts, de leurs manques. Je suis convaincu qu'une autre attitude est possible, laquelle ? Encourager les autres dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils essaient de faire de bien. Les croire capables, oui, tu es capable, puis on est capable ensemble, de changer en mieux, un peu ou beaucoup. Le leur dire, les appeler ensemble au changement. Par contre, alors ça c'est l'attitude non violente, le respect des personnes, mais la dénonciation des mécanismes, dénonciation rigoureuse, forte, tenace, hein, des mécanismes inacceptables. Et donc, j'ai pu faire ces rencontres. J'ai eu la chance de vivre les merveilles des amitiés à Brive. Je suis originaire de Brive, en Corrèze, au lycée d'Arsonval. Et alors, en maternelle, ça m'avait beaucoup impressionné, puisqu'il y avait trois garçons et 27 filles. Hein. J'avais 27 filles, c'était merveilleux. À Cabanis, l'enseignement primaire, j'adorais réciter des poésies. Depuis tout petit, donc, hein, j'ai vécu avec pas beaucoup de poètes, mais certains, Pablo Neruda, d'autres, Tagore aussi. Je peux vous faire partager un poème, si Allez. Tu veux. Vas-y. Bon, un poème de Lucien Jacques, qui était un berger et un poète, tombeau d'un berger vers 1950-53. Ça s'appelle, c'est assez connu, on le trouve facilement sur Internet, « Je crois en l'homme ». Je crois en l'homme, cette ordure. Je crois en l'homme, ce fumier, ce sable mouvant, cette eau morte. Je crois en l'homme, ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme, cette pommade, ce grelot, cette plume au vent, ce boute-feu, ce fouille-merde. Je crois en l'homme, ce lèche-sang. Malgré tout ce qu'il a pu faire de mortel et d'irréparable, je crois en lui. Je crois en lui pour la sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile. Je crois en lui pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan, ses faiblesses. Je crois, oui, je crois tout jamais en lui, pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert, et puis, surtout et avant tout, surtout et avant tout, pour le simple accueil d'un berger. Voilà, Lucien Jacques, c'est un poème très simple, très beau. Et alors, je continue sur les rencontres. À Bossuet, l'enseignement de Brive, l'enseignement secondaire, j'étais aussi nul, ça m'avait beaucoup frappé, en physique-chimie, que mon père avait été doué jusqu'à démontrer dans sa thèse le pouvoir sucrant, oui, c'est lui, de la plante stevia, qui est très connue aujourd'hui.
La fameuse stevia.
Voilà. Oui. Et puis, l'aventure des louveteaux, des scouts, j'ai découvert aussi les amours, j'étais presque tout le temps amoureux, hein. En particulier dans un groupe de théâtre qu'on avait créé avec des amis. Alors après mon enfance, mon adolescence à Brive, j'ai fait mes études universitaires à Toulouse, puis j'ai vécu à Limoges. Je suis un amoureux des villages du Lot, dont ma femme est originaire. Alors, j'en profite pour dire quelque chose de très important, très quotidien pour nous. Je suis limousin, français, européen et citoyen du monde. C'est-à-dire que mon terroir, c'est le Limousin et le Lot. Ma patrie, c'est la France. Ma matrie, c'est l'Europe. Et mon foyer d'humanité, c'est la Terre. C'est entre ces lieux de vie, il y a des interdépendances, heureuses et malheureuses. Il faut remettre en cause les malheureuses et construire les heureuses. Voilà pour les chances des rencontres.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter. Et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud, et pour ne point entendre de chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certes un jour paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée, et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée.
Tu as dit aussi que cette qualité de relations humaines peut se retrouver dans quatre séries de vécus. Lesquelles et comment ?
Alors vous les avez devinés, ces séries de vécus sont l'amour, l'amitié, la fraternité et l'art. C'est ce que les êtres humains ont très probablement inventé de plus merveilleux. Hein. Certains diront que c'est pour se donner l'illusion de ne pas être seul. Puis d'autres diront, non, c'est pour partager, plutôt de cela, hein, non, c'est pour partager des joies et des peines. Et puis d'autres diront, etc., etc. Le partage, c'est un mot que j'aime beaucoup, j'emploie souvent, avec le mot tendresse aussi. Deux de mes mots préférés. Il y a des mots que je n'aime pas du tout. Par exemple, je n'aime pas du tout le mot carrière, le mot parfait, le mot total, total, totalisant, totalitaire, j'aime pas. Alors l'amour. Pendant près de 42 ans, à ce jour, nous avons essayé de le construire tous les deux, ma femme et moi, au milieu des autres, en particulier avec nos enfants, petits-enfants, nos familles. C'est une aventure parfois difficile, mais porteuse d'heureux partages. Alors les amis... ça c'est extraordinaire, c'est un peu par strate hein, presque de période, chaque période de vie, chaque lieu de vie nous ont fait souvent rencontrer des êtres formidables, même après la retraite, hein. Après la retraite on rencontre des personnes formidables aussi, et je les revois avec grande joie, les rangs commencent un petit peu à s'éclaircir malheureusement. J'ai volontairement, c'est une expérience que vous pourriez faire si vous l'avez déjà faite, j'ai volontairement rencontré deux amis que je n'avais pas vus depuis très 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 longtemps, et ça a été, on avait préparé le terrain un peu par téléphone, parce qu'il faut quand même se retrouver un peu avant, hein. Mais ça a été une émotion formidable, un partage lumineux. Et puis j'ai d'autres amis toujours vivants. Tu vois, tu les as derrière sur l'étagère, là. J'ai en particulier une cinquantaine d'ouvrages. Alors j'en prends un tous les 2-3 mois, c'est variable. 4-5 mois, ça dépend. Et je le garde. Ce sont des auteurs qui me parlent. Je les écoute, ils sont toujours vivants. Ils ont un énorme défaut. Un peu comme certains disaient de la calasse, avec elle on oublie tous les autres. Ils ont un énorme défaut, c'est qu'ils me font un peu oublier, pas toujours, heureusement, hein, les autres bouquins. Voilà, ils sont là, j'ai mis une petite pancarte, d'ailleurs tu vois, mes bouquins bien-aimés. Bouquins bien-aimés. Oh, il y en a de très très... J'ai aimé dès l'âge de 15 ans, hein. Alors la fraternité, l'amour, l'amitié, la fraternité, j'ai vécu avant tout dans les luttes. Dans les luttes contre l'inacceptable, dans les luttes pour la démocratie, la justice, l'environnement, la paix, à travers les associations. Et puis avec d'autres émotions, d'autres forces, je l'ai vécu comme beaucoup d'entre nous dans l'art. Surtout à travers la musique, la chanson, le cinéma, la poésie. Voilà. Sans oublier les rencontres, les affections réciproques avec les chiens, les chats. Je connais des gens qui disent on ne change pas. Moi, je n'aimais pas les chats jusqu'à 60 ans, puis je les aime depuis l'âge de 60 ans, qui ont accompagné nos vies, hein, des êtres sensibles, c'est leur qualification qui leur va très bien.
Alors, un second aspect de cet essentiel, c'est ce que tu appelles les luttes contre l'inacceptable et pour l'humainement viable. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Alors, là, il y a au moins deux questions. Quelle dénonciation est inacceptable ? Quelle dénonciation ? Et puis, quelle lutte ? La dénonciation, il y en a beaucoup qui pensent parmi nous et qui sont dans ces luttes, c'est la dénonciation du système productiviste terricide, c'est-à-dire qui assassine la Terre, hein, humanicide, qui assassine l'humanité. C'est ce système, il faut bien l'avoir en soi, cette idée très forte, c'est un système... condamnable et condamné. Il est condamnable du seul fait, par exemple, je donne deux exemples terribles, du seul fait qu'il y ait un enfant sur deux dans le monde c'est-à-dire une personne de moins de 18 ans, l'enfant indéfini. Une personne sur deux dans le monde en situation de détresse et ou de danger, c'est-à-dire des misères, maladies, guerres, etc. Et il est condamnable du seul fait que les marchés financiers, qui fonctionnent à la seconde, à la nanoseconde même, les marchés financiers ont pris une grande partie de la place des décideurs, c'est-à-dire des États, des entreprises, etc. Et ce système non seulement est condamnable, mais il est condamné du seul fait, deux exemples terribles, du seul fait que, par exemple, chaque jour, près de 5 milliards de dollars, c'est gigantesque 5 milliards de dollars, partent vers les dépenses militaires mondiales. Et du seul fait, par exemple, que certaines activités humaines, j'ai beaucoup travaillé dans le droit international de l'environnement, certaines activités humaines entraînent, vous le savez, un réchauffement climatique qui menace l'ensemble du vivant, plus 3 à 6 degrés vers 2100 et autour d'un mètre d'élévation du niveau des mers. Donc voilà pour la dénonciation de ce système terricide humanicide condamnable et condamné. Alors quelle lutte? Quelle lutte? Ben des mettre en avant des moyens justes, écologiques et pacifiques. Tu vois, en rentrant dans la pièce, il y a ma citation préférée qui est l'anti-Machiavel, Gandhi. Machiavel, c'est la fin justifie les moyens. Et Gandhi, c'est au contraire, c'est une pensée qui a bouleversé une partie de ma vie. La fin, les finalités, la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple à exprimer, un plus difficile à mettre en œuvre, ou combien. Si on veut la justice, il faut des moyens justes. Si on veut la paix, il faut des moyens pacifiques. Si on veut la protection de l'environnement, il faut des moyens écologiques. Si on veut la démocratie, il faut des moyens démocratiques. Voilà l'essentiel. Voilà ces deux figures de l'essentiel. Qualité de relations humaines et lutte contre l'inacceptable.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence, Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de pâle, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre eux ces assassins que craignent les panthères, et n'en tremble un poignard. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de pâle, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront.
comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés. Et l'enfant de la femme, inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles, quoi, les bagues toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours, justifié d'idoles, au cadavre jeté, ce manteau de parole, le baillon pour la bouche, et pour la main. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au fond, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Comme un oiseau sur la plus haute branche.
Donc tout à l'heure tu as parlé de du droit international de l'environnement. Donc là on va aborder ta partie enseignant, la partie chercheur. Alors est-ce que tu peux donc nous expliquer un peu ton cursus en tant qu'enseignant, quelles étaient tes matières de prédilection, si on peut dire?
Alors j'ai enseigné à l'université de Limoges donc de 72 à 2013. Surtout quoi? Surtout les relations internationales. J'ai toujours enseigné ce que j'aimais, j'ai eu beaucoup de chance. Les relations internationales, les grands problèmes politiques contemporains, le droit international public et le droit international de l'environnement. J'ai enseigné des premières années jusqu'au DEA, master, etc. J'ai aussi enseigné, ça me plaisait beaucoup parce que les personnes sont là en essayant de prendre du recul par rapport à leur profession. J'ai enseigné dans une cinquantaine, 42 séries de formation continue. Et puis alors ça a été une grande joie. J'ai dirigé le master de droit international et comparé de l'environnement. J'ai calculé qu'en 41 ans, j'avais probablement enseigné à peu près à 48 000 étudiants. J'ai répondu, je n'ai plus les 4 cartons puisque je les ai détruits l'an dernier, j'ai gardé 30 questions, mais j'ai répondu à 5025 questions, plus de 5000. On me les posait par écrit, puis j'y répondais oralement.
Je me souviens, effectivement, on faisait ça en première
la
année.
La semaine suivante.
Tu commençais ton cours par questions des étudiants.
C'était ils se livraient beaucoup, c'était important. Oui. J'ai des regrets, finalement, d'avoir détruit la plupart des questions. J'aurais dû les garder. Et puis j'ai accompagné plus de 300 mémoires, 330. J'ai participé à des jurys de thèse et j'ai usé plus de 40 paires. Je marchais beaucoup dans les amphis, plus de 40 paires de chaussures dans les amphis.
Et alors donc on a parlé puisque donc j'ai eu le grand plaisir d'être l'un de ces 48 000 étudiants auxquels tu as enseigné. Et alors on revient toujours à cette même question d'essentiel. Alors dans tes enseignements, quels sont les éléments essentiels?
Alors là, je suis pleinement heureux de partager ce vécu. Et c'est pas un discours sur quelque chose, c'est un discours de l'intérieur de quelque chose. Alors la première chose essentielle, c'est l'amour de l'enseignement. J'étais amoureux de l'enseignement, je suis encore. C'est-à-dire que quand je suis parti de la fac en avril à la fac 2013 et en mai au laboratoire de droit de l'environnement, j'ai terminé en leur disant, je crois que c'est une phrase que j'ai bien retenue et qui résume bien. Ce dont je suis sûr, c'est qu'en quittant ce métier, je ne veux pas rester aveugle à force de pleurer. Alors de temps en temps, je me retournerai vers lui. Il me redonnera un peu de son souffle. Il me réchauffera sa flamme. Et je crois bien que jusqu'au bout du chemin, j'aurai la chance et la joie de voir son empreinte qui tremblera encore dans la lumière. Une grande flamme. Le second élément, après l'amour du métier essentiel, c'est une question. On a souvent le livre des réponses et il faudrait avoir les livres des questions aussi, hein. C'est-à-dire que une question par rapport au choix pédagogique et au choix des contenus de mes et de nos enseignements. Je partage avec les enseignants parmi nous, hein, ceux qui existent et les futurs. Avons-nous, en tant qu'enseignants, qu'enseignantes, contribué, non pas à remplir des vases, hein, contribué à irriguer des visages, des intelligences, à faire naître des déterminations, à allumer des feux. Et qu'est-ce que, ça on y pense, allumer des feux, mais qu'est-ce qu'on a accepté de recevoir d'eux, de recevoir des élèves et des étudiants? Quelles valeurs, quelles inquiétudes, quelles remises en cause? Il y avait un grand magistrat qui avait écrit dans Le Monde un article « Nous rendons justice les mains tremblantes ». Au soir de ma retraite, je me suis demandé si j'avais enseigné un peu tremblant de cette responsabilité d'universitaire. Et là, quand tu es arrivé, je t'ai dit... Je vous ferai partager une poésie, et puis je serai heureux qu'on parte sur l'essentiel. T'es parti sur l'essentiel. Et je voulais vous faire partager deux témoignages dans un tout petit bouquin qui s'appelle Mémoire de maître, parole d'élève. Deux témoignages extrêmes sur l'enseignement. Un témoignage de deux élèves, donc, qui ont écrit à leur maîtresse. Agnès, la première, et puis Maria, la seconde. Agnès, témoignage terrible. Chaque matin, dans ta classe, maîtresse, j'avais peur. Les jours où tu disais mon nom, je marchais en tremblant jusqu'à ton bureau. Dans ce silence terrifiant, j'allais vers tes paroles qui ressemblaient à des gifles. Je n'ai jamais fermé, phrase terrifiante, je n'ai jamais fermé ce cercueil de l'école. Mon élan se brise encore aujourd'hui au barbelé de ces peurs qui ont tissé mon enfance. Agnès. Alors à l'autre extrême, le témoignage de Maria. Votre regard, maîtresse, m'a insufflé la confiance qui me manquait. Un regard qui savait si bien dire « Vas-y, tu peux y arriver !» Grâce à vous, tout devenait possible. J'étais devenu une personne digne d'être écoutée, aimée, respectée. Comme autrefois, vous me dites toujours et encore que l'espoir est là, dans un regard fou d'émotion et de bonheur pour la vie. Donc c'est très très important, l'enseignement est quelque chose de très très important par rapport à son contenu et ses effets. Alors il y a quelque chose aussi qui est essentiel pour moi, non seulement l'amour de l'enseignement, non seulement cette question, hein, comment est-ce que j'ai contribué à allumer des feux, mais il y avait un autre élément essentiel, c'était les premières et les dernières minutes. Les premières minutes du premier cours de la première année de droit que tu as évoqué, c'était important.
On s'en souvient.
Voilà, et de façon permanente, j'aimais le fait d'arriver le matin avant les étudiants,
oui,
puis de les voir s'installer, peu à peu dans l'amphi. Et les dernières minutes de leur dernière année, quand ils se lèvent et qu'ils partent, et éducation, educere, sortir d'eux, ils partent devant nous, vivant encore mieux, c'est à souhaiter, hein, encore mieux de leur propre vie. Et puis alors les adieux de l'année de la retraite qui ont été extraordinaires. Et puis les dernières minutes dans tous les groupes, depuis 40 ans je le faisais, les dernières minutes du dernier cours, dans tous les groupes de moins de 30 personnes, parce que j'amenais un pot, etc., des petits gâteaux. Et à la on levait nos verres aux suites de leur vie. Ça, c'était un moment très émouvant. Et oui. Puis alors, il y a eu un autre élément aussi, j'y attache beaucoup d'importance, comme certains collègues de la maternelle à l'université, les conclusions. Les conclusions des cours, des interventions de formation continue, des colloques. J'ai travaillé le mieux possible. Dans l'idée suivante, arriver à faire partager un projet d'humanité pour qu'on parte en soi, pour qu'on parte ensemble plus fort d'un projet d'humanité qui nous porte. Voilà. Et puis alors, dans l'essentiel, j'ai eu, tu vois, sur le radiateur là-bas, les mots d'encouragement, de remerciement gardés dans des albums. Et puis les questions, j'en ai gardé donc une trentaine sur plus de 5000 des étudiants. Nietzsche disait, Une phrase avec laquelle je suis pas d'accord, ou alors il faut être surhumain. Il faut quitter la vie, non pas amoureux d'elle, mais en la bénissant. C'est magnifique. Hein. C'est mais je clair. Quitte ce métier en étant encore amoureux de lui, mais aussi en le remerciant de tout ce que je viens de dire. Et j'ai les souvenirs particuliers, alors sont très très nombreux. J'en ai quelques-uns de douloureux, je pense à des disparitions d'étudiants, d'étudiantes, à suite de suicides, d'accidents, de maladies. Et puis beaucoup de souvenirs heureux. Plusieurs se présentent à mon cœur et à ma mémoire. J'en cite trois ou quatre. Ça c'était merveilleux, l'émotion des étudiants de master en droit international de l'environnement, applaudissant, debout. Ils étaient très émus, en fait, hein. les générations futures. Et les applaudissements n'arrêtaient pas. Hein. L'émotion des troisième année de droit, après plusieurs heures passées ensemble sur la protection internationale des droits de l'homme, applaudissant, debout, une pensée que j'avais écrite, en gros, sur le tableau de Pablo Neruda. Ils ne peuvent une pensée contre toutes les dictatures du monde. Ils pourront couper toutes les fleurs. Ils n'empêcheront jamais le printemps. Il y avait alors à l'oral, je me rappelle cette étudiante, je ne donne qu'un exemple de l'oral, il y en aurait d'autres, dont la voix traversait plusieurs cloisons, et elle faisait des moulinets avec ses bras, comme si elle plaidait avec grande éloquence, et puis elle me poussait vers le mur, j'étais plaqué au mur, et puis l'étudiant suivant arrivant, un petit gars sympa, là, qui avait l'air sympa. Je dois faire pareil, monsieur. Je le verrai toute ma vie, celui-là, jusqu'à la fin.
Des grands moulinets,
voilà. Oh là là. Et puis, alors, à l'écrit, la perle des perles. J'ai eu des perles chaque année, mais là, c'était une perle en relations internationales. J'avais dit dans un grand problème politique contemporain, j'avais dit dans un cours sur les libérations des femmes, que des dramaturges grecs affirmaient, ça n'est pas la femme qui engendre, celui qui engendre, c'est l'homme. Et sur la copie était écrit, ça n'est pas la femme qui enjambe, celui qui enjambe, c'est l'homme. Un commentaire dans mon esprit, oui. Enjambez un peu moins vos connaissances, vous semblez avoir l'esprit ailleurs, attention au grand écart. Voilà.
C'est peut-être Mozart, le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar, des batteries de cuisine. Jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra, râpé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, on le fera maçon, râpé bord à bord, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des gogues avec son opinel. jamais on le saura. Râper les tubes de bleu, il fera ses choux gras dans l'épicerie de ses vieux.
Donc tu disais tout à l'heure que tu avais eu la chance d'avoir enseigné ce qui te plaisait. Mais est-ce que tu aurais aimé d'enseigner d'autres matières ?
Ah, je pense qu'il serait souhaitable de créer, en fac de droit et ailleurs, hein, et hors même de l'enseignement supérieur, un cours qui contribuerait à nous apprendre, à travers des théories et des pratiques, à régler nos conflits. De la maternelle à l'université. Une des choses les plus importantes de la vie, c'est-à-dire les situations conflictuelles, on ne nous a pas appris à les régler. Comment régler nos conflits personnels et collectifs ? Ça produirait, à travers quelques décennies, ça pourrait produire des avancées importantes. Créer un cours aussi, ça c'est une idée de Paul Virilio, là, l'urbaniste philosophe, toujours vivant, grand penseur de la vitesse. Créer aussi à différents niveaux, dans diverses disciplines, des cours sur la vitesse dans nos sociétés. Les causes, les effets, les contre-mécanismes, etc. Et puis, alors, dans les facultés de droit, ça c'est regrettable, ça n'est pas assez fait, sauf exception ici ou là que je ne connais pas, peut-être, mais il faudrait mettre en avant de plus en plus l'imagination, c'est-à-dire créer des formations juridiques, de prospectives juridiques. Alors, il y a des enseignants qui font de la prospective juridique. Hein. On peut faire, je l'avais fait imaginer pendant quelques heures aux étudiants, par exemple, la création d'une convention internationale. Bon.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la prospective juridique ?
Alors, la prospective juridique, c'est une attitude différente de la prophétie, qui est le discours vérité. C'est une attitude différente de la prévision, qui est un ensemble d'éléments donnés qui doivent, s'ils continuent, produire les mêmes effets, etc. La prospective, c'est un mélange de hasard, Nietzsche disait le géant hasard, hein, de hasard, de nécessité et de volonté personnelle et collective. Alors, dans la prospective juridique, on imagine, à partir de rapports de force qui peuvent être différents, le droit c'est l'intermède des forces, disait magnifiquement, c'est la plus belle définition du droit à mon avis, à ce jour, le droit c'est l'intermède des forces, disait Paul Valéry. On imagine, à partir de rapports de force, comment ils peuvent être transformés, évoluer ou être bouleversés, et contribuer à produire un nouveau droit. La prospective juridique, hein, l'imagination disait, un peu de façon provocante, Einstein, qui à la fois était un ardent pacifiste sur la fin de sa vie et qui disait de façon provocante, l'imagination est plus importante que la connaissance. Je crois que le droit seul peut dessécher, il faut l'aérer par la philosophie, la sociologie, et puis donc surtout la prospective juridique. Et là, il serait intéressant de faire du droit comparé dans l'Union européenne, par exemple, qu'est-ce qui existe par rapport à la prospective juridique dans telle ou telle université ou qui n'existe pas.
Mais tu as écrit aussi, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes ouvrages, de tes publications ?
Alors écoute, je repars sur quelques chiffres comme pour l'enseignement, puis après on en tirera la substantifique moelle. Quelques chiffres, j'ai écrit donc à ce jour une soixantaine d'articles dans des revues, 8 livres, surtout sur le désarmement, la paix et l'environnement. Et donc, co-dirigé 2 ouvrages, et puis j'ai écrit aussi dans des journaux, dans des revues associatives. J'ai travaillé dans l'équipe du laboratoire de droit de l'environnement, le CRIDO, qui est rattaché à l'OMIJ, et j'ai été à l'origine de 4 colloques internationaux, ça c'était passionnant, et puis j'ai contribué à l'organisation de 3 réunions mondiales, elles avaient lieu à Limoges, juste avant les conférences des États, en 91, 2001, 2011, ces réunions mondiales des juristes de l'environnement. Tout ça sous la direction de Michel Prieur. Et j'ai été dans le comité scientifique qui a pensé le parcours du Centre de la mémoire de Radio-sur-Glane. J'ai été dans le groupe qui a écrit, ça c'était passionnant, pendant une année, un projet de convention sur les droits des déplacés environnementaux. Et j'étais dans la mission qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui sera peut-être, c'est pas sûr du tout encore, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies fin 2016. Sans oublier, je pense, puisque on est dans le partage des chiffres, que j'ai dû user, j'ai aimé beaucoup, mais user près de 3000, 4000 ou 5000, j'en sais rien, créés au tableau. Créés dont toutes les traces sont presque parties.
Est-ce que tu peux préciser ce qu'est l'OMIGE dont tu as parlé là, tout à l'heure?
L'OMIGE, c'est l'Office des mutations donc institutionnelles et juridiques.
Alors, restons sur l'essentiel, bien sûr. Et si tu devais symboliquement retenir quelques éléments essentiels de ta vie de chercheur, qu'est-ce que ce serait?
Dans la substantifique moelle, tu l'as juste au-dessus de, écrite juste au-dessus de la fenêtre, une question qui m'accompagne depuis 43 ans, qui accompagne beaucoup de ceux et celles qui nous écoutent. Cette veille de fin des temps, c'est une expression de Jean-Paul Sartre le lendemain d'Hiroshima. Cette veille de fin des temps, il disait, nous savons désormais que chaque jour peut être la veille de la fin des temps. Cette veille de fin des temps peut-elle encore, j'ai terminé tous mes bouquins par cette phrase, pratiquement tous mes bouquins, peut-elle encore, et à travers quels moyens, se transformer en aube d'humanité? Voilà la question qui m'a accompagné. Et autre élément essentiel, le bouillonnement idéologique, la prospective juridique, la convivialité, ça c'est très important, exceptionnel de certains colloques. Le colloque par exemple sur les catastrophes écologiques. La convivialité, le bouillonnement idéologique des réunions mondiales des juristes de l'environnement. Dans mes bouquins, l'essentiel, c'est le livre le plus global, critique et créateur que j'ai écrit en 88, Construire la paix. Ça, je crois que c'est le meilleur bouquin au niveau du point de vue de la globalité. Le livre le plus lu en France et à l'étranger parce que grâce au master à distance que je dirigeais, donc il était surtout lu par des étudiants de droit de l'environnement en Afrique. Et puis en Amérique du Sud. Et celui des trois éditions de droit international de l'environnement. Le plus original, il est tiré à compte d'auteur, j'avais tiré à 400, c'est un bouquin de citations, un recueil de citations qui s'appelle Au trésor des souffles. Il est d'ailleurs sur mon site qui s'appelle Au trésor des souffles. On tape Au trésor des souffles, on tombe sur mon site. Et puis alors le bouquin le plus massif, il y a 35 communications dedans, c'est celui sur les catastrophes écologiques et le droit, échec du droit, appel au droit, sous la direction de celui qui vous parle, et puis sous la direction de Julien Bétail et Michel Prieur. Michel, donc, que j'ai eu l'immense chance d'avoir comme directeur du laboratoire de droit de l'environnement, du CRIDO, rattaché à l'OMIGE, comme j'avais eu la grande chance d'avoir Robert Savy comme président de la section de droit public. Voilà, donc j'ai eu la volonté de toujours écrire sur ce qui me tenait à cœur, toujours, en cherchant, ça c'est une idée très forte que j'ai trouvée, que j'ai découverte grâce à Edgar Morin en particulier, aux écrits d'Edgar Morin, en cherchant le sens des ensembles. On perd de vue le sens des ensembles. Et j'étais très peu doué pour rentrer, je suis toujours très peu doué pour rentrer dans les démonstrations juridiques fouillées, méticuleuses. D'abord, ça m'énerve, et puis je suis mauvais. Et ça me demande beaucoup de travail. Alors que je plonge avec joie dans les synthèses, les prospectives, les propositions. J'en profite pour dire quelque chose que vous savez, mais enfin, je nous le redis. Chacune de nous a des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Il faudrait arriver à les repérer, et puis si on veut faire bouger tel ou tel, sur tel ou tel point, on peut essayer de bouger. C'est la chance d'une éducation porteuse, en particulier par rapport aux échecs. Les échecs devraient être là, souvent ça n'est pas le cas, devraient être là pour quoi faire? Non pas pour nous punir, mais pour tirer des leçons, pour lever des obstacles, pour apprendre à nous relever, pour découvrir d'autres chemins, etc.
Voilà, malheureusement, la pendule tourne et nous allons devoir nous interrompre. Rendez-vous donc le mois prochain pour la suite de cet entretien avec Jean-Marc Lavieille. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.
Cette émission a été produite et réalisée par Limousin Écologie. Vous pouvez nous écouter une semaine sur deux sur Boom FM le dimanche de 14 à 15 heures et sur Radio Vassivière une semaine sur deux, le mercredi de 19 à 20 heures et le samedi de 11 heures à midi. La deuxième semaine est une réédition.
Toutes nos émissions sont disponibles sur le site de Radio Vassivière, onglet émissions, puis Impact. Vous retrouverez aussi les dernières sur le site de Bob FM. L'association Limousin Écologie organise aussi des conférences et projections de films, suivies de débats. Retrouvez cette actualité sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt !